access to vaccines is the best economic stimulus one can have. A situation where about 10 countries have administered 70 to 80% of the vaccine doses we have in the world, where low-income countries have only seen 0.2% of the vaccines. This is not acceptable, and we have to do something about it.
C'est la patronne de l'Organisation mondiale du commerce qui parle, Ngozi Okonjo-Iweala, mercredi dernier à la télévision chinoise. La situation sur les vaccins n'est pas acceptable, dit-elle. 10 pays environ ont administré 80% des doses disponibles dans le monde. Ce sont les pays riches. Les pays pauvres, eux, ont eu accès à 0,2% des doses. Demain, cela fera un an, jour pour jour, que le dispositif pour justement éviter cela a été lancé. C'était le moment où les chefs d'État et les laboratoires n'avaient rien, ni vaccin, ni test, ni traitement. C'était le moment où tout le monde a promis de tout partager. Un an plus tard, nous sommes donc en train d'échouer. Si la patronne de l'OMC monte au créneau, c'est parce que c'est là, à Genève, que ça se passe depuis des mois. Impasse sur la levée des brevets. Le bras de fer est titanesque. Hier encore, on a entendu le président sud-africain répéter que les vaccins sont un bien public et les laboratoires marteler que suspendre les brevets ne permettra pas de produire une dose de vaccin de plus. C'est une histoire de commerce, de rémunération de l'investissement privé, sans oublier la masse de subventions publiques et d'incitation à l'innovation. Nous devons faire quelque chose, dit la patronne de l'OMC. Elle a raison. Vacciner tout le monde dans tous les pays, voilà l'investissement le plus rentable de la planète.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, bonjour. C'est un magazine réalisé par Céline Hila. Valentin Pérez est attaché de production. Et ce matin, Théo Goumard nous accompagne à la technique. Au menu du Mag'Éco, ce samedi 24 avril, nous irons aux États-Unis, le sommet de Joe Biden sur le climat. Pierre-Yves Dugas va nous raconter le grand virage écolo des pétroliers américains. Pourquoi Big Oil se met au vert? Nous avons aussi rendez-vous avec Sandrine Foulon, Ma vie au boulot. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Alors ce matin, on me dit que vous voulez parler de sommeil.
Oui, j'ai envie de vous parler de l'impact du travail sur le sommeil, mais surtout sur le sommeil des couples.
Ok, alors on en saura plus juste avant 10h, à tout à l'heure. Et puis ce matin, nous parlerons d'espoir, d'un futur déconfinement. L'invité du MAG, c'est Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire le Futuroscope, le Parc Astérix, le Musée Grévin, tout ça c'est lui. Comment voit-il les semaines à venir, l'été ? Interview à 9h45. Sur le terrain, le tourisme, c'est un secteur à l'arrêt, et en particulier en Île-de-France, la première région touristique de la planète. Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Mais tout de suite, on démarre avec les débatteurs. Bonjour Béatrice Mathieu.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes rédactrice en chef à L'Express et spécialiste des questions économiques. Et bonjour à vous Christian Chavagneux.
Bonjour.
Éditorialiste à Alternatives économiques. Alors Béatrice, Christian, on a suivi la conférence de presse du Premier ministre, on a suivi les coups de pression des professionnels qui veulent rouvrir. Première étape de déconfinement vers la mi-mai, nous dit-on. Alors ce matin, débat pour nos entreprises et leurs millions de salariés, les défis et les risques d'une sortie de crise.
Les principales fédérations de commerce et 150 patrons de grandes enseignes de vêtements, de chaussures, de bijoux ou de jouets réclament au gouvernement une date précise pour la réouverture de leurs magasins.
Il faut bien comprendre que pour beaucoup de magasins, la fermeture n'a pas commencé le 3 avril, mais elle a commencé le 31 janvier dernier.
Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Ça fait 3 mois de fermeture, donc il faut maintenant que le gouvernement s'exprime clairement sur une date de réouverture. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir réouvrir, de recréer le lien avec nos clients, de redonner de l'emploi à nos 800 000 collaborateurs des commerces non essentiels qui aujourd'hui sont à arrêt.
Tout ce que la France compte de fédération de commerçants publie, une tribune, que demande-t-il ?
Nous sommes prêts.
Didier Chesnay, président du groupement national des indépendants, hôtellerie et restauration.
Nos équipes, nous commençons aujourd'hui à bien les reformer. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas y arriver. Nous avons fait une récente enquête, nous avons perdu 110 000 salariés de la branche qui ont préféré quitter le métier. Ils ne reviendront pas vraisemblablement. Donc déjà, quand nous allons réouvrir, il va falloir certainement aller chercher certains salariés.
Cette réouverture, nous voulons, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai.
Jean Castex, mais Premier ministre.
Compte tenu du contexte sanitaire encore fragile que nous connaissons, nous devrons l'organiser de telle sorte qu'elle se fasse par étapes, de manière forcément prudente et progressive. À partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai, les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses.
Le gouvernement sera-t-il en mesure de tenir l'échéance fixée au 15 mai? Quel sera le protocole dans chaque secteur?
Ah ben, j'ai pas appris grand chose de plus que ce qu'on savait déjà, cette éventualité d'ouverture de terrasses et de commerces mi-mai.
Philippe Etchebest, chef étoilé.
Alors, donc c'est toujours au conditionnel. Après, je peux comprendre qu'il faille des paliers. Il faudrait surtout pas, le pire qui pourrait nous arriver aujourd'hui encore, c'est de réouvrir et qu'on nous demande de refermer au mois de septembre ou au mois d'octobre l'an suivant. Ça, ce serait terrible. Ouais. Donc, il faut vraiment rouvrir dans les meilleures conditions possibles pour ne plus refermer derrière. Le stop and go, c'est terminé, ça suffit.
Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous. Philippe Etchebest, il dit on n'a pas appris grand-chose finalement à cette conférence de presse de Jean Castex. Vous, que sait-on aujourd'hui de la réouverture de l'économie? Comment ça pourrait se passer?
Bah, ça va se passer très très lentement. Ça va se passer d'abord par territoire et ça va se passer pour les commerces, les bars, les musées, par des jauges. Donc ça veut dire que le redémarrage va être extrêmement lent, très très progressif. Et quand vous imposez des jauges, ça veut dire que votre commerce il est ouvert, mais vous avez aussi vous avez potentiellement moins de gens qui peuvent venir, mais vous avez des coûts fixes qui sont encore là. C'est l'électricité, c'est les loyers, c'est le nettoyage. Et donc, ça va continuer à peser sur la trésorerie de ces entreprises, de ces petits commerces. Ça veut dire que tous les filets de sécurité, toutes les béquilles qui ont été mis en place depuis un an, notamment le fonds de solidarité, vont devoir perdurer. Et c'est très bien, il faut que ça perdure. Et qu'au fil des mois, on en reparlera sans doute à l'automne, s'il n'y a pas de nouveaux variants et si on n'a pas une quatrième vague, on aura un calibrage au fur et à mesure des mois, de plus en plus ciblé sur les secteurs qui sont les plus en difficulté et ceux pour lesquels la crise va être très longue. Il y en a deux, c'est évidemment l'aéronautique et c'est aussi tous les secteurs qui sont liés au tourisme étranger. Là, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais il est probable que les aides dans ces deux secteurs-là en particulier durent très longtemps. Et encore une fois, c'est très bien.
Alors justement, Christian Chavagneux, les aides, le filet de sécurité, on a eu cette semaine des chiffres. On peut évaluer si ça a été efficace, si ça a été bien calibré.
Dans les aides sectorielles, j'ajouterais aussi la culture. Il n'y a pas que l'aéronautique ou le petit commerce. Oui, effectivement, on a eu des bonnes statistiques et plutôt positives en fait sur la façon dont le gouvernement a géré ces aides. En fait, on s'aperçoit que le gouvernement il est intervenu sur deux étapes. La première étape, en gros, un peu plus de 100 milliards pour éviter les problèmes d'exploitation. Vous avez Béatrice l'a dit, on a des coûts fixes, on a du mal à avoir un chiffre d'affaires qui correspond à ce qu'on doit payer. Donc, on va vous aider à ce que l'exploitation de votre entreprise se porte pas mal. Par exemple, on a des reports et des exonérations de cotisations sociales pour 60 milliards, d'accord ? Et alors que les TPE ne représentent que 20% de l'emploi total, elles ont bénéficié à 60% de ces reports
les
et ces exonérations
de
charges sociales. Il y a aussi la fameuse activité partielle pour conserver vos salariés tout en les payant un peu. Là, ce sont plutôt les PME qui en ont profité pour 25 milliards. Et puis le fonds de solidarité, évidemment, là pour les indépendants, c'est plutôt des petites entreprises pour 12 milliards. On a une étude du Trésor français qui nous dit s'il n'y a pas eu toutes ces aides, on a eu 36% d'entreprises insolvables, c'est-à-dire illiquides, incapables de payer leurs dépenses à court terme. Grâce à ces aides, on n'en a plus qu'un quart. Donc, on est passé 36% à un quart. Et si on n'avait pas eu ces aides, on aurait eu 12% d'entreprises insolvables, c'est-à-dire leurs dettes supérieures à leurs actifs. Et là, on n'en a que 6,6%. Ça, c'est le premier niveau, à peu près 100 milliards. Et pour toutes celles qui ont des problèmes, celles qui sont illiquides, peut-être aussi, peut-être un peu celles qui sont a priori insolvables, là, vous avez le fameux prêt garanti par l'État. Début avril, il y a eu 137 milliards de distribués pour 675 000 entreprises. C'est quand même pas mal. C'est moins que l'Italie et que l'Espagne, mais c'est 4 fois plus que l'Allemagne. Peut-être le signe que les entreprises allemandes vont un peu mieux que les entreprises françaises. Mais en France, on a le taux d'intérêt le plus bas de ces prêts garantis par l'État. Donc plutôt bien ciblé, plutôt bien fait.
Je vois Béatrice Mathieu opiner. En effet, vous
lisez la même chose dans ça c'est le rapport Queré hein, qu'on a eu cette semaine. Vous lisez la même chose. Ce filet de sécurité, il a été bien calibré, il a bénéficié aux petites entreprises. Mais est-ce qu'il y a eu des effets d'aubaine? Et puis est-ce qu'il y a eu, par exemple, des entreprises zombies hein, qui en auraient bénéficié?
Alors, c'est vrai que ce filet de sécurité, hein, avec ses quatre piliers, a été assez efficace. Peut-être un petit point, et d'ailleurs le rapport Queré le souligne, ça a été sur le fonds de solidarité. Au départ, oui. Il a quand même été pas très bien calibré. C'était que les petites entreprises de moins de 10 salariés, c'était 1 500 euros par mois. Et donc, on voit que au fur et à mesure des mois, et notamment à l'automne avec la deuxième vague, eh bien, on a recalibré ce fonds de solidarité, heureusement, en prenant en compte plus la taille des entreprises et la taille du chiffre d'affaires, en fait. Donc ça, c'est peut-être le petit bémol dans la panoplie des mesures. Oui, ça a bénéficié aux petites entreprises, quand on parlait des prêts garantis par l'État, hein, quand on regarde la répartition par taille d'entreprise de ces prêts garantis par l'État, eh bien, à 90%, c'est les PME et les TPE, aussi bien en nombre de dossiers qui ont été délivrés qu'en montant en fait accordé. Donc ça c'est très important. Et quand on regarde aussi les secteurs qui en ont bénéficié, on voit que le commerce a bénéficié aussi beaucoup de ces prêts garantis par l'État. Donc efficace, oui.
Alors, juste une question avant de revenir peut-être aux effets d'aubaine et aux entreprises zombies. Je pense quand même à tous ces témoignages qu'on enregistre de petits indépendants, de ceux qui disent qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Quand le rapport Queré dit c'est globalement satisfaisant, c'est pas un 20 sur 20, Christian Chabanne.
Non, bien sûr, c'est pas un 20 sur 20. On sait que... Alors, le rapport Queré nous dit une chose assez bizarre, enfin moi que j'ai trouvé originale, que j'avais pas du tout vu, c'est que les entreprises qui vont très très bien, ça on pouvait s'y attendre, mais les entreprises qui vont très très mal ont eu peu recours à toutes ces aides, en fait. Donc, il n'y a pas eu, pour répondre à vos deux questions en même temps, Alexandra, il n'y a pas eu de beaucoup d'argent donné aux entreprises zombies, des entreprises qui, de toute façon, auraient dû disparaître et qu'on aiderait du fait de la crise. Non, en fait, les plus fragiles n'ont pas été cherchées globalement toutes ces aides.
Alors maintenant, la sortie de crise, Béatrice Mathieu, parce que ce qu'on sait, c'est que les entreprises fragiles, elles ont été placées en hibernation. D'ailleurs, avant cela, une question... Est-ce qu'on peut faire la photo des entreprises qui vont bien? Comment elles vont globalement, nos entreprises?
Mais globalement, c'est très compliqué. En fait, cette crise, c'est un formidable accélérateur de polarisation. Donc, la polarisation des secteurs, avant, on disait les grandes entreprises, les petites. C'est plus tellement ça. Ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Donc, il y a des grandes entreprises, on pourrait parler d'Air France, KLM, ou de Renault, ou de la SNCF, qui vont évidemment pas très bien. Et il y a des petites entreprises qui vont très bien aussi parce qu'elles sont dans des secteurs qui ont beaucoup profité. Donc la polarisation, elle n'est pas grande entreprise, petite entreprise, elle est plutôt dans les secteurs qui ont bénéficié de la crise et ceux qui ont été aussi fermés administrativement. On a sur une... Quand on nous dit comment elles vont, on a une statistique quand on regarde les défaillances d'entreprises qui est assez biaisée parce que finalement, les faillites d'entreprises ont beaucoup diminué l'année dernière, hein, près de 40%. C'est lié à tous les filets de sécurité qu'on a mis en place. Alors, il y a une autre statistique qui est regarder la profitabilité des entreprises, le fameux taux de marge. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une baisse du taux de marge qui est assez importante, de près de 4 points, qui est plus importante qu'en Allemagne et qui est grosso modo du même niveau qu'en Italie et en Espagne.
Une bonne moitié de cette baisse du taux de marge s'explique par le fait qu'il y avait la fameuse année en 2019 où les entreprises ont bénéficié à la fois du CICE et de la transformation en exonération en baisse de cotisation.
Donc ça, c'est pour le comment vont les entreprises, Christian?
Mais moi, je trouve qu'elles ne vont pas si mal que ça, en fait. Parce que Béatrice vous a dit, il y a un problème de concentration.
Béatrice qui secoue la tête.
Mais globalement, je trouve qu'elles ne vont pas si mal. Pourquoi? Parce que cette étude du Trésor dont je vous parlais tout à l'heure, elle nous dit, si la demande revient à peu près des entreprises, la demande qui est adressée aux entreprises revient au niveau de 2019, on va constater quoi? Une baisse de l'investissement de 2%. Or, en fait, la Banque de France nous dit, on a 160 milliards d'épargne accumulée, dont un quart au maximum, c'est de l'épargne de précaution. Je ne sais pas si je vais retrouver mon boulot, je sais pas. Donc je la mets de côté, celle-là, je ne la dépenserai jamais. Ce qui fait que les trois autres quarts, c'est quand même 120 milliards potentiellement, peuvent revenir dans l'économie. C'est l'équivalent d'à peu près 5 points du PIB. C'est plus que le plan de relance du gouvernement. Donc avec ça, je pense que la demande va revenir beaucoup plus forte que ce qu'elle était en 2019. Du coup, les entreprises, peut-être que l'investissement ne va pas se porter si mal que ça dans les années qui viennent. Donc on va regarder, j'étais très surpris. J'ai regardé entre mars de l'année dernière et février, c'est la dernière stat de la Banque de France de cette année, la croissance des demandes de prêts à l'investissement des entreprises. Plus 7,5%. en moyenne. Pratiquement sur chaque mois, on est à 7,4, 7,5, 7,7. Donc il y a quand même une forte demande de crédit d'investissement. L'INSEE nous dit c'est les services informatiques, les logiciels, tout ça continue. Là où je suis d'accord avec Béatrice, c'est qu'il y a des secteurs, mais c'est très très pointu en fait. Les secteurs qui ont des difficultés, c'est des secteurs très pointus. Hébergement, restauration, c'est 43% de l'activité partielle, 60% du fonds de solidarité et des aides. Et les trois quarts des baisses de chiffre d'affaires dans ces secteurs ont été couverts. En fait, il y a très peu d'entreprises insolvables. Bien sûr, quand vous êtes dans les 10% d'hébergés, d'hôtels ou de petits bistrots qui ne vont pas, eh ben évidemment, vous êtes dedans. Mais globalement, ils s'en sortent plutôt pas mal.
Alors, le problème avec lequel on reste, Béatrice, c'est la dette.
Mais le problème, c'est la dette. Alors, on a énormément parlé ces derniers mois de la dette des États, de l'État. En fait, le vrai problème, c'est pas tellement la dette des États en ce moment, c'est la dette des entreprises. Et c'est un problème français. La dette des entreprises rapportée au PIB, en France, c'est près de 86% du PIB.
C'est beaucoup plus que ça.
En Allemagne, on est... c'est encore pire. En Allemagne, on est à 46%. Et moyenne de la zone euro, on est à 70. Donc, on a un gros problème de dette des entreprises. Et pour revenir à cette question des prêts garantis par l'État, pour beaucoup de petites entreprises, vous savez, ces prêts garantis, en fait, ils étaient calibrés pour être remboursés sur 6 ans. Le gouvernement a donné 2 années blanches. Ça veut dire que pour énormément de petits commerces, il va falloir rembourser ce prêt seulement sur 4 ans. Ça veut dire qu'effectivement, ils vont recommencer à ouvrir, recommencer à avoir du chiffre d'affaires, mais c'est dur. Tout le chiffre d'affaires, tout le cash flow, comme disent les comptables, eh bien, qu'elles vont sortir, va être mangé par le remboursement de ce prêt. Donc, ça veut dire qu'elles ne vont pas pouvoir investir, elles ne vont pas pouvoir rénover le magasin, elles ne vont pas pouvoir embaucher, parce qu'il faudra rembourser. D'où la grande question qui est sur la table aujourd'hui. Est-ce qu'on peut effacer une partie de ces prêts garantis? Est-ce qu'on peut restructurer cette dette? Et là, c'est moins aisé que ce que dit Bruno Le Maire.
Sauf que dans leur ensemble, les entreprises ont largement profité de ce PGE pour renforcer leur cash, leur trésorerie, ce qui fait que si vous prenez la dette moins la trésorerie, c'est stable en
mais
fait.
Mais c'est pas les mêmes.
C'est pour ça que j'ai commencé en disant dans leur ensemble. Oui. Plus la moitié dispose encore de l'intégralité de leur prêt garanti par l'État, donc ceux-là peuvent le rembourser demain matin en claquant des doigts. Et les trois quarts ont choisi la durée de remboursement la plus longue possible jusqu'en 2026. Évidemment, si on a une quatrième vague et si en plein soleil on prend toujours son parapluie, c'est sûr qu'on peut toujours dire que ça va mal aller. Là où je suis d'accord avec Béatrice, c'est que la dette des entreprises françaises, avant la Covid, était beaucoup plus importante. Et en fait, ce que fait la Banque de France et les chiffres qu'a donné Béatrice, c'est les chiffres de l'endettement des entreprises non financières en France, mais hors la dette inter-entreprise, parce que la Banque de France ne calcule pas. Or, la Banque des règlements internationaux le calcule. Et là, on voit que la dette des entreprises françaises, c'est l'équivalent de 153% du PIB avant la crise. C'était 108% dans la zone euro. Et ça grimpe en France alors que ça baissait. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que la dette Covid, elles vont la rembourser. Mais la dette passée, celle qui était d'avant Covid, je suis pas sûr que les entreprises française puisse la rembourser, mais c'est dans ce surendettement, c'est surtout sur les grandes entreprises qui jouent en bourse. Et donc celle-là, c'est pas pour celle-là qu'il faut leur donner de quoi annuler la dette.
Bon, et on va reparler de toute façon, parce qu'en effet, on attend de savoir ce que veut dire exactement Bruno Le Maire quand il évoque l'idée d'effacer une partie de la dette des entreprises pour les entreprises.
Mais peut-être saines. Évoque-t-il les dettes sociales et fiscales, puisqu'il y a eu des reports de charges.
Vous voulez dire
des...
qu'on efface les cotisations n'ont pas été payées, on dit c'est d'accord?
Dans certains secteurs, peut-être. Okay. Dans certains secteurs, peut-être.
On va suivre ça. Et on va continuer aussi de parler de la réouverture future de notre économie avec dans une quinzaine de minutes avec notre invité. C'est le président de l'Alliance France Tourisme, c'est aussi le PDG de la Compagnie des Alpes, Dominique Marcel. Mais auparavant, Béatrice, Christian, je vous propose un tour ailleurs sur la planète éco. Dans le combat contre le réchauffement climatique, en effet, America is back.
The United States isn't waiting. We are resolving to take action. Not only our federal government, but our cities and our states all across our country, small businesses, large corporations, American workers in every field.
Voilà Joe Biden qui prend le contre-pied de Donald Trump et organise un sommet mondial pour le climat. C'était jeudi. Le deuxième pollueur mondial a pris de nouveaux engagements très ambitieux en matière d'émissions carbone. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Pierre-Yves, si on veut être juste, il faut quand même rappeler que malgré Donald Trump, malgré le retrait de l'accord de Paris, ces dernières années, les États-Unis ont continué à réduire leur rejet de CO2. Alors c'est complètement contre-intuitif, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors paradoxalement, L'Amérique de Donald Trump a finalement tenu la promesse qu'elle avait rejetée, et qui était celle de Barack Obama, de faire tomber les émissions de gaz à effet de serre de 26% par rapport à leur niveau de 2005. Alors comment est-ce possible, alors que les Républicains et le Congrès, poussés à l'époque par le lobby pétrolier en 2010, ont refusé la taxe carbone? Eh bien, les forces du marché, la chute des prix du gaz, grâce à l'exploitation généralisée du gaz de schiste, tout cela a permis de fermer des centrales à charbon, d'ouvrir des centrales à gaz qui sont plus économiques et moins polluantes. Seulement voilà, maintenant pour aller plus loin aujourd'hui, il va falloir agir autrement.
Mais est-ce que le lobby pétrolier, Pierre-Yves, est prêt à faire autrement, à agir autrement? Est-ce que cette industrie du gaz et du pétrole est en train de prendre ou pas le virage vert?
Alors ce lobby que l'on appelle de manière péjorative Big Oil a compris au moins trois choses. D'abord, le changement climatique est réel. Ça n'est pas une invention d'écologistes en vue de détruire le capitalisme ou d'affaiblir l'Amérique. Deuxièmement, les Américains ressentent concrètement les effets du réchauffement. De fortes sécheresses en Californie, des vagues de froid inhabituelles au Texas. Et on leur dit que c'est la faute du dérèglement climatique et maintenant ils le croient. Et puis troisièmement, Big Oil pense pouvoir faire un business de la captation du carbone, avec des aides financières de l'État fédéral probablement, avec la fixation d'un prix du carbone. Des géants comme ExxonMobil, Chevron, Schlumberger pensent qu'ils vont finir par maîtriser la technologie du décarbonage, et ils pensent qu'en stockant dans le sous-sol du Golfe du Mexique, par exemple, des milliards de tonnes de carbone, ils vont pouvoir réconcilier l'industrie qui consomme l'énergie fossile avec les impératifs de combat du réchauffement. Alors, dans cette nouvelle donne, ils ont aussi l'appui de nombreuses multinationales, Apple, Boeing, General Motors, Delta Airlines par exemple. Toutes ces sociétés poussent le président Biden à viser au moins un doublement des objectifs de réduction de CO2. Alors le Congrès va-t-il suivre? C'est possible. Gros problème tout de même, les conservateurs continuent de souligner qu'une fois de plus, on demande à l'Amérique de faire de gros investissements alors que la Chine, la première pollueuse au monde, continue de brûler du charbon.
Un œil sur les États-Unis avec Pierre-Yves Dugas. Merci à vous, Pierre-Yves. Et merci également à nos débatteurs de ce samedi, Béatrice Mathieu et Christian Chavagneux. 9h35 sur France Inter, nous ouvrons donc notre chapitre tourisme. Quand pourra-t-il repartir? C'est pas une petite question hein, pour la France. En 2018, nous avons reçu presque 90 millions de touristes. La France, première destination mondiale. Et ce samedi, un des acteurs majeurs du secteur est notre invité. Bonjour Dominique Marcel.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la Compagnie des Alpes, alors des domaines skiables, et puis des parcs de loisirs, le parc Astérix, le musée Grévin. Vous êtes aussi le président de l'Alliance France Tourisme. Qui représentez-vous?
Oui, ce sont des grandes entreprises de tourisme. On peut citer Accor, on peut citer Bellambra, Pierre et Vacances, Aéroport de Paris, Galerie Lafayette, Bellambra, et beaucoup d'autres, des entreprises qui nous réunissons et qui travaillons pour faire des propositions avec notre expérience d'entreprise, des propositions pour faire en sorte que le tourisme ait une compétitivité, une attractivité durable en France, avec une vision un peu globale des choses, pas uniquement une vision purement, on n'est pas un syndicat professionnel, on est plutôt un lieu de réflexion pour faire des propositions.
Et là justement, oui, il y a en effet des propositions à faire pour que 2021 peut-être se passe mieux que 2020. Alors, la région touristique numéro 1, c'est l'Île-de-France, c'est donc elle la plus touchée. Dominique Marcel, je vous propose qu'on écoute ensemble le reportage de Caroline Pommès.
J'arrive dans le Marais, donc un des quartiers les plus emblématiques de Paris quand on vient visiter la capitale. Il y a un grand ciel bleu et les terrasses sont vides, elles sont même fermées. Il y a quelques Parisiens qui sont en train de courir sur la place, mais pas de touristes à l'horizon pour cette belle journée. Et donc j'aperçois Linda Zenou, qui a sa carte de guide conférencière autour du cou. Bonjour.
Enchantée.
Vous allez comment?
Ça va. Voilà.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier?
Donc moi, je suis guide conférencière depuis 15 ans. Et donc j'adore ce métier. Et il me manque énormément. J'ai actuellement 61 ans. Comme vous le voyez, par exemple, ici, nous sommes dans un lieu absolument magique, superbe, qui est la place des Vosges et qui est à elle toute seule toute l'histoire de France. le quartier qui est placé dans le quartier du Marais, qui est un quartier qui est connu pas seulement des Parisiens, mais je dirais même mondialement. Maintenant, les Américains, il faut savoir que j'ai une clientèle essence, on va dire à 90% américaine, connaissent ce quartier.
Vous venez souvent ici ?
Oh bof.
Avec des touristes ?
Avec des touristes, là maintenant c'est fini. Je n'ai plus d'activité depuis mars 2020. Depuis le début de la pandémie, je ne travaille plus du tout.
Et est-ce que vous êtes au chômage partiel ? Comment vous faites ?
Alors voilà, je suis donc guide salarié en CDD d'usage, qui en fait, je suis vacataire, c'est-à-dire que je travaille pour différentes agences. On signe un contrat à chaque mission. Hein. Comme la plupart des guides autour de moi, malheureusement, les agences pour lesquelles on travaille, eh bien, ne nous ont pas mis au chômage partiel.
Donc, pas de chômage partiel pour vous ?
Pas de chômage partiel. En revanche, je fais comment ? Jusqu'à présent, j'ai pu bénéficier d'une allocation chômage. Malheureusement, ces droits ont été décomptés chaque jour. Donc, je n'en ai plus, heureusement. J'ai été prolongée, donc ce mois-ci, normalement, là, je devais être sans rien. Et je vais être prolongée de mes droits jusqu'au 30 juin. Mais si toutefois la situation sanitaire s'améliorait, ce qui ne veut pas dire que les touristes vont revenir pour autant, je peux très bien, trois semaines, un mois, ne plus avoir cette prolongation. Et donc plus rien. Alors, il ne reste plus qu'on m'a conseillé de voir une assistante sociale. Et donc, il y a une demande d'ASS, allocation solidarité spécifique. Si jamais j'arrive à avoir cette aide, je vivrai avec 16 euros par jour, l'équivalent de 480 euros plus ou moins par mois.
Beaucoup de précarité en effet, hein, parmi les guides conférenciers comme Linda Zenou. Sur tout le territoire, ça fait environ 4000 personnes et... Une énorme majorité, 8 sur 10, ce sont des femmes. Comme tous les professionnels du tourisme, des hôtels, des cafés, des restaurants, du transport, des agences de voyage, ces guides scrutent donc l'horizon. À quand la réouverture ? Pour qui le retour à la normale ? Ce matin, nous sommes au cœur du Paris historique, le Marais, où nous retrouvons notre reporter, Caroline Pommès.
Croisière d'exception. Ça y est, j'y suis. Bonjour. Bonjour, c'est pas grave. Je ferme.
Donc Lionel Rabier, président des entreprises du voyage Île-de-France, le syndicat qui rassemble les acteurs du voyage, qu'ils soient agences ou tour opérateurs.
Alors comment va le secteur ? Comment vont les entreprises du tourisme en Île-de-France ?
Alors c'est une crise qui est absolument inédite, hein. Vous avez des acteurs comme les agences de voyage ou les entreprises dans l'événementiel qui sont à l'arrêt complet. Puis vous en avez d'autres comme les hôtels qui arrivent à générer un peu d'activité, mais très très loin des standards habituels. En Île-de-France, on est à des taux de remplissage des hôtels de l'ordre de 10 à 15% contre 60-70% en temps normal. Et puis le secteur des grands magasins, par exemple, ou les grands parcs, comme Disneyland, qui effectivement souffrent énormément de la clientèle étrangère, qui manque terriblement aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il y a toute une économie en danger. Ce qu'on sait aussi, c'est que la sortie de crise n'aura pas lieu au même moment pour tout le monde. Et ça aussi, c'est une grosse inquiétude. On sait que pour les acteurs du voyage, par exemple, ça risque d'être beaucoup plus long. Tous les instituts parlent d'un retour à la situation pré-crise pour 2023. Et on sait même qu'il y a certains sous-secteurs du voyage, comme le voyage d'affaires, qui risquent de ne jamais retrouver les niveaux avant crise. Donc, une des grandes inquiétudes que nous avons, nous, aujourd'hui, au quotidien, c'est justement ces perspectives de sortie de crise et cette crainte, peut-être, que les aides puissent s'interrompre, et ce qui mettrait en danger beaucoup d'entreprises.
Voilà, le syndicat des entreprises du voyage voudrait que les aides soient prolongées, et à la région, on demande un soutien particulier pour la première destination mondiale. Amida Rezeg est vice-présidente, elle s'occupe du volet tourisme.
Nous, ce qu'on veut déjà, c'est qu'on ne pourra pas rattraper hein, les millions et les milliards de chiffres d'affaires de retombées économiques de 2019. Mais nous, notre souhait, en fait, c'est qu'on ait un véritable plan Marshall pour la relance du tourisme. Bon, c'est vrai que depuis un an, le gouvernement aussi a essayé d'accompagner un maximum les entreprises à travers le chômage partiel, à travers le PGE, enfin tous les fonds qui étaient disponibles pour ces acteurs. Mais ce n'est pas suffisant parce que même si il y a effectivement une aide pour le chômage partiel, mais il y a aussi grosse aide quand même qui doit être d'accompagner, que ce soit en matière de promotion touristique, en matière de communication, d'accompagner tous les professionnels du tourisme pour vraiment réouvrir. Il faut vraiment qu'on ait un vrai plan du tourisme en Île-de-France. C'est la première destination mondiale, c'est des millions de touristes qui viennent du monde entier. Et pour l'instant, c'est bien, le gouvernement a relancé un peu le tourisme dans les plans montagne, mais la France, c'est pas que les montagnes.
En Île-de-France, le calendrier est flou pour le moment. Seules échéances importantes, la Coupe du Monde de rugby dans 2 ans et les Jeux Olympiques dans 3 ans. Mais d'ici là, comment attirer des touristes? Bertrand Réau est sociologue au CNAM et titulaire de la chaire Tourisme, Voyage et Loisirs.
Il y a des marges de manœuvre qui peuvent se faire et effectivement, un des leviers pourrait être le soutien à la demande. Oui, si vous voulez, là, quand on dit sur les soutiens de la demande sur le territoire français, c'est parce que, si vous voulez, on a aussi une réserve de clientèle potentielle avec des envies. Hein, les envies sont toujours très fortes. Je vous rappelle que 40% des Français ne partent pas en vacances. Alors, il y a bien évidemment une partie d'entre eux, c'est totalement volontaire. Mais pour d'autres, c'est aussi des questions financières, des questions d'organisation de temps, etc. Les classes populaires et puis une partie des classes moyennes et que, effectivement, un soutien pour pouvoir aussi à la fois faire bénéficier des bénéfices des vacances et des loisirs pour ces catégories sociales, mais aussi pour pouvoir soutenir la relance du secteur. La clientèle internationale ne sera vraisemblablement pas encore au rendez-vous très prochainement. Donc, la clientèle nationale est une piste quand même à étudier sérieusement, je dirais. Par exemple, le Japon avait proposé un programme qui s'appelait GoTo et il délivrait des bons pour les Japonais qui souhaitaient aller à l'hôtel ou utiliser le train au Japon.
Voilà, soutenir la demande, comme on vient de l'entendre, c'est une des pistes pour faire revenir les touristes. Certains acteurs travaillent aussi pour améliorer l'offre, de nouveaux circuits touristiques, des logements innovants et ça passe aussi par la réalité augmentée. Fabien Baratti est cofondateur de l'entreprise Emissive. Il propose des visites virtuelles. Il vous permet par exemple de contempler la Joconde depuis votre canapé.
Les institutions et les entreprises se rendent compte de manière plus rapide des avantages de ces technologies immersives. Surtout quand les touristes étrangers ne sont plus dans la capitale, c'est sûr qu'il y a un manque criant de revenus. Et il faut trouver d'autres lignes de revenus, il faut créer des nouveaux flux. Et on pense que ces technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça peut permettre de créer des nouveaux revenus pour le tourisme, mais aussi pour la culture, la préservation du patrimoine.
Bon, c'est parti.
Alors, il va falloir s'équiper.
Alors là, on me met un masque de réalité virtuelle sur la tête. Ça y est, je suis plongée, comme dans une grande salle de cinéma. Waouh! Alors là, j'arrive sur la place du Louvre.
Car avec cette foule difficile.
Donc là, on peut se déplacer librement. Elle était à 360 degrés, on peut aller où on veut.
Je peux rentrer dans le Louvre, c'est ça?
Exactement.
Ça y est, je suis dans le Louvre. C'est impressionnant.
Bah, c'est le principe vraiment de la réalité virtuelle, c'est pouvoir se projeter littéralement dans une autre réalité, finalement.
On est dans la grande galerie du Louvre.
Et on va aller dans la salle des États. Où se trouve la Joconde ?
On s'est appesé sur ses épaules.
Ou finalement, cette crise, pour vous, c'est plutôt un accélérateur ?
Alors, on a levé des fonds il y a un an, pendant le premier confinement. On a levé 3 millions. Ça correspond, disons, à notre objectif de développement. Et donc, depuis un an, on a embauché 6 personnes. C'est un bon développement, surtout dans cette période.
Et ça y est, là, je suis face à la Joconde. C'est impressionnant, j'ai du bruit dans les oreilles comme s'il y avait d'autres visiteurs avec moi dans le musée.
Tant d'aventures depuis 1503 et le premier.
Je vous déséquipe.
Et donc là, c'est la fin. Voilà, donc j'ai été au musée du Louvre alors qu'il est fermé depuis des mois. Je suis scotchée.
Tourisme, l'Île-de-France désertée, sinistrée. C'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et Dominique Marcel, le président de l'Alliance France Tourisme, le PDG de la Compagnie des Alpes est notre invité. Dominique Marcel, donc des domaines skiables dans les Alpes, des parcs d'attractions, Walibi, le Futuroscope. Vous venez de publier le dernier chiffre pour la Compagnie des Alpes, c'est octobre à mars. Oui. Est-ce que c'est à l'image du secteur?
Ouais, bien sûr, parce que c'est quasiment moins 100% sur le ski. Et c'est une chute très très forte aussi sur les parcs de loisirs. Donc nous avons un chiffre d'affaires en chute totalement vertigineuse.
C'est-à-dire ?
Nos sites sont à moins 93, on est à l'arrêt. En fait, on est à l'arrêt du complet, quasiment. Et ceci dure depuis maintenant 14 mois. Enfin, pas l'arrêt complet, puisque nous avions repris en été nos activités de parc de loisirs, qui avaient d'ailleurs pas mal marché. Mais depuis 14 mois, sur le ski, nous avons perdu, en gros, l'équivalent de 120% de notre chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que nous sommes arrêtés depuis 14 mois, vous vous rendez compte. Et un certain nombre d'entreprises sont dans cette situation, l'événementiel, le ski, un certain nombre d'hôtels aussi sont fermés.
Et tout le monde scrute l'horizon, alors
j'imagine bien... Tout le monde scrute l'horizon parce qu'on a fait énormément d'efforts, on s'est mobilisé, on a fait des plans d'économie exigeants, les équipes ont été formidables, mais il y a un moment où on s'épuise, où on est découragé. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de la visibilité... Et c'est de nous faire confiance, de la visibilité, parce qu'on nous dit, on nous parle de mi-mai, qu'est-ce qui va exactement se passer à la mi-mai ?
Alors oui, vous avez écouté cette conférence de presse, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je pense que c'est quand même une ouverture que le président de la République avait déjà faite, on parle des terrasses, on parle de certains lieux culturels, mais quid des parcs de loisirs, quid de ce qui va se passer quand même dans l'ensemble des lieux culturels, de l'ensemble des activités de loisirs, on n'est pas encore complètement... bien informé, on comprend la complexité, c'est difficile de gérer cette crise. Mais en plus, on nous annonce des phases. Alors, si c'est des phases de 4 semaines, 1 mois, où on lève progressivement les contraintes, on risque d'arriver comme ça au 15 juillet ou au 1er août. Or, il faut absolument qu'on soit prêt pour les vacances d'été. C'est les vacances d'été qui vont nous permettre non pas de rattraper, mais en tout cas de rattraper un peu du retard que l'on a accumulé. Et j'entendais votre interlocuteur, votre intervenant, dans la séquence précédente.
Dans le reportage, oui.
Il faut promouvoir au maximum le tourisme, notamment la France, parce qu'on sait très bien que c'est la France qui va démarrer avant les étrangers. Et il faut que nous fassions des promotions, il faut que nous travaillions, et nous professionnels, nous travaillons avec les transporteurs pour stimuler cette demande domestique. Mais il faut qu'on ait un minimum de visibilité. Vous comprenez que pour ouvrir nos parcs, par exemple, pour ouvrir des hôtels, pour ouvrir des lieux touristiques, il faut recruter, il faut préparer la commercialisation, il faut préparer le marketing, enfin, il faut la communication. Donc il faut encore des semaines avant d'annoncer l'ouverture. Et ensuite, on nous promet une ouverture progressive. Ça fait long, quoi. Donc nous, on veut de la visibilité.
Alors, Jean Castex a expliqué, le Premier ministre l'a dit, il y a des concertations en ce moment avec les professionnels.
Oui, bien sûr.
Par exemple, donnez-nous une idée pour vos parcs de loisirs. Quels sont les scénarios
nos parcs de loisirs
en termes de jauge, en termes
mais de... nous, l'an dernier, je vous l'ai dit, nous avons plutôt bien fonctionné l'été. Nous nous sommes imposés, nous avons mis en place des protocoles qui ont été jugés sérieux par les pouvoirs publics. Évidemment, masques, gel, désinfection, les files d'attente ont été très bien organisées. On a même développé des files d'attente virtuelles pour justement éviter les files d'attente. C'est ce que nous faisons notamment au parc Astérix. Et nous allons, je l'espère, le généraliser dans l'ensemble de nos parcs. Nos protocoles sont sérieux. Nous disons, et dans l'ensemble de l'industrie touristique, je crois qu'on a fait de gros efforts, nous disons qu'on nous fasse confiance.
Mais vous savez bien que c'est pas ça. Le sujet sont les flux. Le sujet, finalement, c'est pas la confiance. En effet, dans les commerces, les professionnels font leur travail. Mais le sujet, ce sont les flux, en réalité.
Oui, mais ces flux, on peut parfaitement les maîtriser avec de bons protocoles. Et nous nous engageons, et les entreprises, d'ailleurs, de l'Alliance sur le tourisme, s'engagent à les respecter. Et nous, s'il y a des gens, des professionnels ne le respectent pas, tant pis pour eux. Il faut faire de vrais contrôles, parce que si on durcit à cause de cela, c'est au préjudice de toute la profession et de tout le secteur. Mais on peut quand même nous faire confiance. L'an dernier, nous n'avons pas eu un incident dans nos parcs. Il n'y a pas eu un problème sanitaire.
Pour les parcs de loisirs, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez accepter comme jauge ? Avec quel calendrier, précisément ? À quel moment vous êtes rentable et pas rentable ?
Ça dépend des parcs, ça dépend. Mais en fait, il faut au moins 40%, 50% pour la plupart de nos parcs. Hein. Donc il faut. Alors, l'an dernier, nous avons fonctionné, nous avons fait une jauge par nous-mêmes, on avait fait une autodiscipline, on était plutôt autour de 60%. Vous voyez, là où on pouvait recevoir jusqu'à 25 000 visiteurs à Astérix, on en a reçu 15-16 000. Et là, ça peut fonctionner.
L'application Tous Anti-Covid, elle est en train d'évoluer pour garder en mémoire les tests et les vaccinations. La Commission européenne, elle veut un pass sanitaire sanitaire d'ici fin juin. Est-ce que pour vous, c'est important, ça peut aider?
Le pass sanitaire participe en effet de la confiance. Alors cette fois-ci, la confiance de nos visiteurs, de nos concitoyens, il y participe. Notamment, je pense que le pass sanitaire est notamment très, très important pour la circulation transfrontière. Il ne faut pas évidemment qu'on ait un pass sanitaire qu'on nous demande quand on monte dans le train, quand on passe d'une région à l'autre, parce que là, ça deviendra quand même des contraintes difficilement gérables. Ça met aussi d'ailleurs en jeu des sujets de liberté, de secret médical, dans lequel je n'entre pas. Mais le pass sanitaire en soi est une bonne idée. Après, il faut en voir les modalités.
Est-ce qu'on peut imaginer que ça soit obligatoire pour entrer dans un parc d'attractions cet été ou cet hiver, quand tout le monde aura eu accès, j'espère, au vaccin, on voudra prendre un télésiège?
Écoutez, il faudrait quand même éviter que ça le soit. Je pense que nos protocoles doivent permettre d'éviter que ça le soit. Voilà, que ce soit obligatoire. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on entre dans une généralisation de contrôle. Je rappelle quand même au passage sur les sports d'hiver, le ski a été ouvert en Suisse, comme vous le savez. Il y a eu une activité significative en Suisse. Il n'y a pas eu un incident. Je le précise, parce que c'est ce que nous défendions cet hiver.
Alors, Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, aujourd'hui, votre entreprise, comme toute celle du tourisme, elle est soutenue par des aides publiques. Mmh. On entend que ça va diminuer avec la levée des restrictions progressivement d'Ibercy. Est-ce que ça vous rassure, ce progressivement?
S'il y a une levée progressive, en effet, ça nous rassure. Toutes les entreprises ne sont pas dans les mêmes situations. Il est sûr que les aides de trésorerie, nous avons nous-mêmes profité nous avons pris deux PGE et nous en avons été, évidemment, ça nous a beaucoup servi, bien sûr. Mais il ne faut pas que ces aides se débranchent, en effet, trop brutalement. Il faut le faire progressivement, en fonction de la reprise progressive de l'activité. Mais encore une fois, les aides sont surtout des aides de trésorerie. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui vont avoir besoin maintenant de fonds propres, parce qu'il faut rembourser la dette. Et il faut restructurer les bilans qui sont terriblement atteints, terriblement fragilisés. Et si on veut faire un plan de relance du tourisme à moyen et long terme, il faudra investir. Il faudra que les acteurs, qui sont tous très fragilisés, trouvent les moyens pour investir, pour s'équiper et pour maintenir la compétitivité du secteur à un moment où la concurrence va s'exacerber, vous vous en doutez.
C'est ce qui vous fait peur?
Eh bien évidemment, la concurrence va s'exacerber. On en a peur. Enfin, c'est pas qu'on en a peur, on le voit de manière, faut le voir de manière dynamique et offensive. Mais il est clair quand même que la concurrence va s'exacerber parce que tout le monde va vouloir essayer d'avoir une part du gâteau. Et donc, il faut qu'on soit au rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre vite quand les pays européens voisins ouvrent déjà. Quand la Suisse, quand l'Autriche va ouvrir mi-mai, quand l'Angleterre, comme vous le savez, a déjà ouvert un certain nombre d'activités, l'Espagne, où on peut aller au restaurant librement, etc., etc. On prend du retard, on risque de perdre des parts de marché. Ça aussi, nous le disons au pouvoir public, il faut agir vite et nous donner de la visibilité. Je me répète, mais la situation du secteur est telle, je crois qu'on ne se rend pas compte de la gravité de la situation que connaît ce secteur. Il faut agir.
Si vous voulez recruter pour cet été, et si les salariés n'ont pas accès au vaccin, est-ce que vous arriverez à recruter?
Oui, non, ça, on arrivera à recruter. Il n'y a pas de problème. On arrivera à recruter. Simplement, il y a, comme vous le savez, des pertes de compétences parce qu'il y a des gens qui commencent à quitter nos métiers. Vous avez vu les chiffres qui ont été donnés par les hôtels, cafés, restaurants.
100 000 personnes qui auraient disparu des radars.
Exactement, parce qu'il y a un moment donné où le lien se distend.
Allez, dernière question, Dominique Marcel. L'autre gros dossier du secteur en ce moment, c'est celui de la montagne. Vous parliez d'investissement. Un plan montagne est en préparation. Il y a évidemment le sujet de l'année blanche, mais il y a aussi le sujet de il y aura moins de neige, du réchauffement climatique. Que faut-il?
Alors, sur le réchauffement climatique, il faut en effet que ce plan joue un rôle important. Il ne faut pas être dans le déni. C'est pas une catastrophe, mais il ne faut pas être dans le déni. Il faut mesurer bien l'impact du réchauffement climatique. Il faut prioriser les zones pour lesquelles on pourra skier et d'autres pour lesquelles on ne pourra pas skier. Il y a des domaines pour lesquels, quoi qu'il en coûte, il ne faudra pas préserver des domaines qui n'ont pas d'avenir. Il faut faire des choix, il ne faut pas être dans l'évitement. Et puis, bien sûr, il faut faire des choix d'investissement, donc, et aussi sortir du tout-ski.
Alors, le tout-ski... C'est-à-dire faire d'autres investissements, d'autres activités.
Faire en sorte d'avoir des activités touristiques qui ait de la neige ou qui n'y en ait pas, puisse fonctionner toute l'année de manière rentable. Le tout-ski, c'est inadapté. Et on l'a vu, le sans-ski n'est pas viable. On l'a vu cet hiver. Il faut trouver un bon équilibre. Un ski, une montagne, quatre saisons.
Pour ce plan montagne qui va arriver.
Et on a du temps pour s'adapter.
Dans les prochaines semaines. Dominique Marcel, le président, directeur général de la Compagnie des Alpes, merci d'avoir répondu à l'invitation d'On n'arrête pas les
coups. Merci beaucoup.
Sans Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Alors Sandrine, est-ce que le télétravail, le confinement, les séries qu'on regarde trop tard le soir, c'est la raison? Mais en tout cas, vous aviez très envie de nous parler de sommeil et surtout du sommeil des couples qui travaillent.
Et oui Alexandra, parce que la vie au boulot vient se glisser jusque sous nos draps. Bon, on le savait déjà, mais les études nous le confirment. Plus on est stressé, moins on ferme l'œil. C'est vrai pour les personnes qui risquent de perdre leur emploi ou qui se sentent discriminées. C'est encore plus flagrant si on est une femme ou un immigré, explique une étude européenne menée dans 30 pays. Ailleurs, à Chicago, une autre enquête montre que les Noirs dorment moins longtemps et moins bien que les Blancs, ce qui s'explique par des conditions de travail et de vie moins favorables. Ce qui restait plus mystérieux, en revanche, c'est l'impact du travail sur le sommeil des couples. Mais là aussi, la nuit est le miroir de ce qu'a été la journée. Plus les horaires de travail sont atypiques, plus le sommeil l'est aussi. Par ricochet, l'ensemble de la vie de couple et la vie sociale sont affectés. C'est ce que constate la chercheuse Capucine Roche, qui s'est intéressée à nos chambres à coucher et dont on trouve le travail sur le site de l'INSEE. Aujourd'hui, 2/3 des couples vivent cette situation d'horaire décalé. Ne pas être maître de son emploi du temps est un marqueur d'inégalité sociale qu'on embarque au lit.
Alors Sandrine, dites-nous en 30 secondes, les horaires à rallonge, les nuits courtes, c'est aussi le lot des cadres.
Effectivement, plus on grimpe dans la hiérarchie, plus la probabilité de travailler beaucoup est forte. Mais là, on parle d'horaires en journée classique. À l'inverse, plus on se situe au bas de l'échelle, plus les horaires sont décalés et subis. Pouvoir se coucher et se lever ensemble, si on a envie bien sûr, est un privilège de cadre, nous dit la chercheuse. Sur 10 heures de sommeil, un couple dort en moyenne près de 8 heures simultanément. Mais les ménages de cadre ou de profession intermédiaire sont synchrones à 82%, alors que pour les couples d'ouvriers et d'employés, c'est moins de 76%. Et puis quand l'autre ne dort pas, il ne fait pas les mêmes choses. Une femme lève-tôt consacre en moyenne 55 minutes aux tâches ménagères. Mmh. Un homme y passe 12 minutes. Une fois les yeux fermés, on pourrait espérer que le genre et l'appartenance à une classe sociale s'évanouissent. Et non, comme on travaille, on se couche. Un homme, une femme, un ouvrier, un cadre, un agriculteur ne rêvent pas des mêmes choses. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous raconte fort bien le sociologue Bernard Lahire dans le deuxième tome de son interprétation sociologique des rêves.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.